Tambe Dukono, commune d'Akwami Frété.
Chadès Radio, NFM 89.5, le nouveau souffle de la démocratie.
Femme Leader, une émission d'éducation, d'information et de sensibilisation. Femme Leader, c'est l'émission qui fait la promotion de la femme engagée, inspirante et qui fait preuve d'un savoir-faire. Femme Leader, c'est tous les dimanches à 12h sur Radio Gerbès FM 89.5 MHz. Femme Leader, toi femme, ça te concerne.
Amis auditeurs de Bout des Ondes, bonjour et bienvenue sur un nouveau numéro de votre émission Femme Leader. Femme Leader de ce jour reçoit pour vous une femme pas des moindres, une femme à plusieurs casquettes. Elle, une femme qui est de la vie associative, universitaire et politique. Pétrie d'expérience, elle a contribué à l'épanouissement de plusieurs femmes dans notre pays. La brave dame, l'infatigable, nous fera l'honneur de dévoiler ses secrets pour nous permettre de faire face aux défis de la vie. Tout ceci en 55 minutes. Moi, c'est Roméose Azoukiba et Pose Zinkou. À la régie, l'homme de tous les temps, Freddy Fayon. Bonjour une fois encore et installez-vous confortablement avec ce chocolat musical. Revenons dans ce studio pour faire face à notre invité, Madame la ministre. Bonjour et veuillez vous présenter aux auditeurs.
Bonjour, donc je me nomme Sophia Tou Onisade. Épouse Baba Moussa.
Merci à vous. Docteur Sophia Tou Onifade, épouse de Baba Moussa, est-elle béninoise?
Oui. Bonjour à vous, Madame Roméose. J'ai oublié de vous saluer. Et monsieur, la technique aussi, bonjour. Bonjour à tous. Bien sûr que je suis béninoise et 100% de Porto Novo. Mes parents sont du premier arrondissement de Porto-Novo. Ma maman est du quartier qu'on appelle Soukomen, Kitita. Et mon papa est de Ouetoumé, qu'on appelle en Yoruba Togo. Toujours dans Porto-Novo, premier arrondissement.
Et vous êtes de la maison, comment on appelle votre maison, le quartier?
Là, c'est vrai que j'ai fait mes premiers pas à Candivier, dans le 4e arrondissement de Porto-Novo, où mes parents ont construit. Et ensuite, c'est vrai, quand j'ai été mariée, je suis allée dans le 3e arrondissement où vivaient les parents de mon époux. Voilà. Donc j'ai fait un peu tout pour Porto-Novo, premier de mes parents, 4e de ma jeunesse et 3e de ma vie maritale.
Voilà. C'est bon. Voilà. Avez-vous des frères et sœurs, Madame la ministre?
Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai deux frères et deux sœurs.
Vous occupez quelle position?
Je peux dire que je fais office d'aîné aujourd'hui, avec que maman a eu plusieurs autres enfants qui ne sont pas restés. Et donc, je suis la première.
La première. Voilà. Donc, après vous, les autres enfants.
Les autres enfants. J'ai deux jeunes petits frères et deux jeunes sœurs.
Voilà. Leur évolution sur le plan scolaire, professionnel.
Bon, très bien. J'ai celle qui me suit directement, qui est après la gestion en informatique. Celle qui suit, qui est actuellement médecin. et celui qui suit qui est avocat au barreau de Cotonou et le dernier ingénieur en construction des routes, voilà.
Ah, donc et vous êtes heureux alors, vous êtes heureux vraiment.
Ça va, on rend grâce, on va remercier surtout les parents.
Et les parents sont-ils toujours vivants?
J'ai mon père qui est décédé, père à son âme, mais ma maman est toujours elle, vit toujours.
Elle est toujours là, elle est toujours très mignonne comme vous.
Ah, merci beaucoup.
Et merci en comptant, comment vous les appelez?
Mon père, je l'appelais Babette et ma maman, c'est Yer, voilà.
Yer,
bon, Yer. C'est Yoruba.
Et vous, à la maison, en ce moment-là, on vous appelait comment? Les frères, le quartier.
Le quartier, bon, pas mon prénom, hein, Sophia.
Ah,
voilà.
D'accord. Ok. C'est le moment pour moi d'aborder votre petit scolaire.
Oui.
Et comment s'est passé, a été votre petit scolaire?
Oui, j'ai fait bon la maternelle dans le quartier, à l'école La Matine à côté juste à Canévé, un peu au bord des rails. Ensuite, je suis allée à l'école primaire, publique de Canévé, un peu vers Adjara de Koti, ceux qui connaissent Porto Novo. Ensuite, j'ai fait le lycée Toufa.
Le lycée des jeunes filles
de Toufa premier jusqu'à la classe de quatrième. Et ensuite, je suis allée à Agou, au Togo, où j'ai fait le 3e chez les sœurs, au niveau de la montagne d'Agou.
Mais pourquoi?
Pas loin de Palimé. Ah, parce que j'avais commencé peut-être pas à me faire trop d'amis.
Ah, d'accord.
Je commençais à m'amuser un tout petit peu et ça me freinait un peu au niveau de mes études. Les parents préféraient que j'aille un peu au niveau des sœurs, chez les sœurs, pour que vraiment l'éducation puisse être aller jusqu'au bout.
Et arriver là-bas, comment ça s'est passé?
Ça s'est très très bien passé, j'ai adoré.
Donc
j'ai
vous
adoré.
Avez eu le bébé togolais?
Le togolais, voilà.
Ah,
j'ai adoré, j'étais avec les sœurs, j'ai aimé beaucoup leur rigueur et j'ai beaucoup appris d'elle. Et c'est là aussi que je suis tombée amoureuse pratiquement de la nature.
D'accord.
Et ça, c'était un très très beau paysage là-bas, le climat est frais, la verdure, c'était tellement calme. J'ai beaucoup aimé. Voilà.
Et après le BPC,
après le BPC, quand j'ai eu le BPC, c'était bon. La promesse est que si j'avais le BPC, je pourrais continuer à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand j'ai eu mon BPC, mes parents ont décidé de m'envoyer en France pour continuer mes études.
Ah, là-bas. Donc vous avez
j'ai continué là-bas.
La seconde là-bas.
La seconde, la première là-bas. Toujours pour essayer d'avoir de parfaire l'éducation.
Félicitations à vos parents, hein,
oui.
Parce que tous les parents n'ont pas cette devise-là,
oui.
Cette vision-là.
Mon papa était très, très engagé dessus. Mon papa a toujours voulu que nous fassions des études parce qu'il a regretté de n'avoir pas pu lui faire ses études, maman d'ailleurs. Donc, ils ont toujours voulu que les enfants soient quand même d'un niveau, que le niveau éducationnel est vraiment assis parce que c'est la base de tout.
Et à l'intérieur là-bas, comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé à l'extérieur. Il faut dire qu'à la seconde aussi, j'étais dans une école dirigée par un prêtre.
Ah.
Dirigée par un prêtre, juste dans un petit village de la France, Orvault, pas loin de la ville, qu'on appelle la ville d'Angers.
Mm-hmm.
Donc j'ai fait seconde là-bas. C'est ensuite que j'ai rejoint partie de mes cousins qui étaient à Reims, dans la région de Champagne-Ardenne. C'est là que j'ai fait tout le reste de mon cursus. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu mon bac à Reims et j'ai fait la faculté des sciences.
Ah,
j'avais tenté un peu de faire le concours de pharmacie.
Oui.
Et ça, c'était un peu compliqué. J'ai pas pu
l'avoir.
Mais j'ai continué en même temps à la faculté des sciences et c'est là que j'ai fait les sciences biologiques et j'ai fini par une maîtrise en biochimie. Et ensuite, c'est après la maîtrise que je suis retournée au groupe des
gens. Bonne arrivée à vous. Qu'est-ce qui vous a positivement marqué durant ce cursus-là?
beaucoup de choses. J'ai aimé quand même ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai aimé tout le cursus scolaire, universitaire, le challenge, les défis, l'envie de réussir, les études, c'est le bel âge. Le bel âge, surtout que, bon, si vous essayez et que ça marche,
on a de l'ambition à évoluer, on est content.
On est content, voilà. Puis les parents aussi qui encourageaient beaucoup derrière. Ils encourageaient beaucoup derrière. Et Dieu merci.
Merci à vous et négativement, nous allons
enregistrer. Négativement, bon, je ne sais pas si je vais qualifier ça de négatif. Il y a des choses qui arrivent, peut-être sur le coup on se dit que c'est négatif, mais à la longue on se rend compte que c'est ça qui nous a permis d'acquérir d'autres aptitudes. Donc à partir de ce moment-là, je n'en retiens pas vraiment, je ne retiens pas de ça vraiment des éléments négatifs. Ça vous booste. Il y a de certaines
choses,
ça vous motive, voilà, ça vous motive. Donc, finalement, je ne peux pas dire que c'est négatif.
C'est le moment d'aborder votre parcours professionnel. Docteur Sophia Tony Fadebo de Bogamoussa, vous avez été ministre de l'énergie et de l'eau, ministre du commerce, ministre de la microfinance des femmes et de l'emploi des jeunes, et aujourd'hui chargé des cours à l'université d'Abomey-Calavi. J'aimerais savoir les étapes que vous avez franchies pour être à ce niveau.
Merci beaucoup. C'est vrai que, bon, après le cursus scolaire, à côté du cursus scolaire, il y a la vie associative, il y a la vie politique, tout ça là. Et surtout que, avant d'être ministre, j'ai été d'abord nommée directrice adjointe au niveau du Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi. Et ensuite, j'ai été confirmée directrice générale de ce centre. Et je pense que c'est le dynamisme dont j'ai certainement fait montre qui a fait que j'ai été remarquée et
mise très rapidement,
rapidement, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est rapidement?
Ça n'a pas trop tardé.
Ça n'a pas trop tardé, bon, parce que pourquoi, par rapport à quoi, vous dites que ça n'a pas trop tardé?
Non, c'est pas tout juste au retour.
Ah non, c'est pas tout juste au retour. Ah non, pas du tout. Je suis revenue au Bénin en 2000 et j'ai été nommée. Ma toute première nomination date de 2009, donc
9 ans après.
Oui, j'ai eu le temps de faire mon DSF, j'ai eu le temps d'enseigner à l'école primaire, je dis école primaire, au collège. J'étais au collège Champollion à Porte-Nouveau et j'assurais les cours de sciences naturelles pour les élèves de sciences de seconde, de première et de troisième.
Et là, vous dit que vous avez été professeur.
J'ai été professeur aussi et j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et voilà, je me souviens toujours quand j'ai fait mes premières heures de cours, à la fin du mois, j'ai eu comme salaire 8000 francs CFA. Oui.
8000,
le premier salaire. Professeur. Voilà, je fais 8000 francs. Mais je vous assure, ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit, bon, dans mon milieu, beaucoup de femmes yoruba, c'est des commerçantes. Elles vont au marché, elles vendent, elles sont dans le commerce de. Et c'était pas vraiment mon ambition à moi. Je voulais forcément travailler et occuper un bureau, être responsable et ne pas avoir à faire du commerce, faire autre chose que ce que tu fais dans mon milieu. Et donc pour ça, je savais qu'il y avait des sacrifices à faire et je les faisais. Parce qu'à l'époque, les filles, les femmes qui avaient mon âge, à l'époque, étaient des femmes qui pouvaient s'acheter des chigans, des lessives, des sacs, des
trucs
pour aller à Go, comme on dit. Mais je ne regardais pas ça, je me disais non, mes ambitions étaient tout autres. Et Dieu merci, ça a quand même porté.
Et aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous acheter facilement.
Oh oui, à partir de ce que j'ai eu à faire.
Au moment où les autres sont encore au marché,
au moment,
dans le commerce,
voilà. Et qui réussissent également aussi leur vie, hein. Ils réussissent leur vie, mais à leur manière. Voilà, donc.
J'aimerais savoir l'ambition qui a existé entre vous et vos collaborateurs en tant que ministre, puis collaborateurs et étudiants en tant que DC.
Voilà, avec les étudiants, ça s'est vraiment superbement passé, super bien passé. Et aujourd'hui, je rencontre encore les étudiants avec on se parle avec beaucoup d'émotion. Et il y en a qui sont actuellement même des directeurs de sociétés d'État et qui, à l'époque, certainement voyaient en moi déjà un exemple peut-être à suivre et qui le disaient. Et les étudiants vraiment m'ont apprécié. La femme que j'étais, peut-être le centre des œuvres universitaires et sociales, c'est le centre qui leur permet où ils doivent se reposer, manger, dormir et faire les loisirs, le sport. Donc j'assurais pratiquement ce rôle de maman là à tous les étudiants à partir du poste que j'occupais. Donc ça s'est très très bien passé. Et surtout que j'essayais de faire en sorte de faire une gestion assez transparente de la structure. Ça a été beaucoup apprécié.
En votre temps, il n'y avait pas eu de détournement au niveau du
On a essayé.
Les étudiants se
plaignaient beaucoup. Donc c'est avec moi j'ai fait beaucoup de réformes, C'est avec moi que ça a commencé les réformes au niveau du CNU. Et aujourd'hui, le cap est maintenu. Et depuis d'ailleurs que j'ai été c'était la première femme à être directrice du centre. Il n'y a jamais eu de femme là-bas. Et depuis, ça n'y a rien que des femmes qui sont nommées jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu trois directrices après moi, et c'est rien que des femmes.
C'est pas que
la gestion
est. Les gens ont compris qu'avec les femmes,
ça peut aller facilement. Voilà, ça va mieux. Les relations avec les étudiants sont moins tendues.
Et l'ambiance qui avait régné entre vous et vos collaborateurs, comment vous étiez ministre?
Comme moi, j'étais ministre, ça n'a pas été facile.
Racontez-nous un peu.
Ça n'a pas été facile parce que j'avais à diriger des hommes qui étaient d'un certain âge aussi. Et qui se dit, c'était assez difficile pour eux de recevoir les ordres d'une femme, en plus d'une jeune femme. Alors là, c'était pas facile. Mais je vous assure, j'ai tenu bon. S'il faut refaire ce que j'ai eu à faire, je ne vais pas hésiter une seule seconde. Je vais m'y faire encore parce que j'ai essayé quand même d'être assez ferme dans mes décisions. Et même ça étonnait beaucoup. Et l'autre femme aussi qui était là-bas, elle est jeune, mais
elle est brave.
Nous avons eu, c'est pas tout pareil, mais j'ai eu peut-être la chance de faire les études à un endroit où il y a la liberté d'expression entre les professeurs et les élèves. On n'avait pas peur de nos professeurs. On pouvait parler à nos professeurs allègrement avec les professeurs. Donc, même celui qui est ton patron, qui peut te permettre de parler normalement. Donc, moi, je n'avais pas forcément peur de parler avec ceux qui étaient mes aînés, sans pour autant les heurter ou leur manquer de politesse. Mais ce qui est du travail, nous devons pouvoir le faire comme cela se doit. Voilà, donc je ne leur demandais pas autre chose que le travail pour lequel on nous a mis à ces postes. Donc je tenais à jouir de mes droits et à faire en sorte que l'on me respecte en tant que ministre, en tant que supérieur. C'est pas parce que je suis une femme ou que je suis plus jeune qu'il faut
manquer de respect.
Voilà, c'est ça.
D'accord, vous avez été trois fois ministre. Chaque fois qu'on vous nomme ministre, quel a été votre état d'âme?
Bon, c'est vrai que c'est une très grande responsabilité. Très grande responsabilité. Et à chaque fois, je me disais, oh Seigneur, aide-moi. Et j'ai beaucoup. C'est vrai qu'à côté, je priais beaucoup pour que tout se passe bien, pour qu'au moment où je dois quitter, que cela se passe comme cela se doit, et dans la dignité. c'est à chaque fois.
Les gens n'allaient pas vous voir pour vous demander, madame, comment vous faites, et chaque fois c'est vous, donnez-nous le secret.
Non, pas du tout. Les gens, c'est vrai que ça est sidéré, le fait que j'ai été nommée trois fois, mais c'est pas forcément dû à moi. C'était une
responsabilité
aussi, compétence, le fait que j'ai été. Peut-être parce qu'on s'est dit aussi que je suis pas restée trop longtemps au poste. Donc on s'est dit que bon, elle n'a pas encore fait suffisamment ses preuves. Il faut y avoir pour que. Donc c'est par rapport à l'instabilité même du gouvernement en général qu'on a dû me déplacer. Ça m'a permis d'avoir cette plusieurs casquettes. Voilà.
Et d'accord. Comme toute fonction, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est difficile du temps.
En tant que femme
déjà, oui. En général, le problème qui se posait surtout au niveau de notre administration, c'est la lenteur un peu administrative. La lenteur administrative en général, qui est en train de se corriger, surtout avec la digitalisation de tout aujourd'hui, ça aide beaucoup à aller beaucoup plus vite et faciliter les choses. Mais en tant que femme, je vous l'ai dit, c'est surtout que les hommes ne supportent pas que les femmes leur disent ce qui leur dirige, leur disent ce qu'il y a à faire. Et surtout que vous allez, même dans une réunion, une simple réunion, même à la maison, hein, vous le sentez parfois, au cours d'une réunion, vous allez dire les mêmes choses peut-être deux, trois fois, les gens vont faire semblant de ne pas écouter ou ne font pas attention, et c'est quand l'homme répète la même chose que vous avez dit, et c'est là que vous voyez qu'on lui donne une réponse. Vous voyez, donc, ça, c'est tout naturel chez les hommes de ne pas... je ne sais pas, c'est difficile, c'est pas facile pour la femme, mais à chaque fois, il faut faire le double, même le triple des efforts
D'accord.
que l'homme doit fournir avant d'avoir le résultat que
est compté. Ok, je vous remercie. À quel niveau, quel conseil avez-vous à donner aux femmes qui ont le désir de réussir leur vie professionnelle?
Bon, ce que je peux donner comme conseil, c'est surtout ne pas se décourager. Avoir de la persévérance, ne pas se décourager et beaucoup travailler. Beaucoup travailler, ne pas hésiter et ne pas être fatigué de travailler, de faire des recherches, de se cultiver pour que à tout moment vous puissiez répondre à tout. Pas, on ne peut pas répondre à tout, mais que vous soyez apte au moins à dire à peu près ce que vous avez en face, à dire à peu près, vous vous rapprochez un peu de ce qui se dit dans au cours d'une réunion ou pas. Et ne pas se taire, c'est pas facile. Ne pas se taire, apprendre à la fois à se taire et ne pas se taire.
Les
deux à la fois. Il y a des moments où il faut se taire, regarder. Mais une fois que vous devez prendre la parole, que vous sachiez, vous soyez ferme et que vous soyez sûr de ce que vous voulez dire. Même quand on vous rabroue, on vous dit, bon, vous êtes. Parce que vous allez rencontrer beaucoup d'hommes qui vont passer leur temps à vous faire perdre confiance en vous. À vous rabrouiller, à vous ramener, même en famille, hein, c'est partout. Et dès que vous êtes femme un peu cultivée, vous êtes un peu instruite, à chaque fois vous allez dire une chose, on va faire semblant de ne pas comprendre ou de vous ramener à votre. Dire que bon, c'est pas bon, si c'est pas ça,
qui là?
Qu'est-ce qu'elle dit?
Bon, c'est voilà. Qui même?
Merci. Donc tout ça là, faut pas regarder ça et continuer à dire ce que vous avez dit, à filmer. Donc c'est vrai que quand vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, vous allez le répéter à chaque fois, les gens finiront par accepter, par comprendre ce que vous dites. Mais faut surtout pas baisser les bras pour les femmes. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Madame la Ministre. J'aimerais savoir si, lors de votre parcours professionnel, vous avez été attelée une fois.
Attelée, je ne sais pas ça. Je sais pas ce que si, le fait de plaire à quelqu'un et qu'il vous dit que je vous lui plaisais est un harcèlement. Bon, moi, je ne prends pas ça comme un harcèlement. Vous êtes une femme, vous êtes peut-être présentable, vous aimez, il y a quelque chose qui vous plaît, qui plaît à quelqu'un en vous. Il vous le dit et vous le mettez à sa place, tout simplement. Mais harcèlement, c'est vrai que de manière insistante, que quelqu'un me dit voilà, il faut, non,
mais
jamais.
Ça se passe.
Ça se passe, mais non. Il faut dire que peut-être, je ne sais pas, peut-être moi j'ai réussi quelque part à éviter ça. Et peut-être quand je sens ça venir, j'ai peut-être une carapace que je mets tout de suite et qui fait que on n'ose pas trop aller plus loin. Peut-être, moi j'ai réussi peut-être à faire ça, et d'autres, peut-être non, je ne sais pas, mais non. Jusqu'à insister, non, je n'ai jamais été confrontée.
Personne n'est jamais allé vous voir pour dire, tel monsieur est en train de m'harceler, il insiste, j'ai tout fait, menace, tout et tout. Personne n'est jamais allé vous voir pour...
Ah si, j'ai déjà eu quelqu'un qui a eu une jeune fille,
ça se passe.
Et nos jeunes filles, surtout avec le sous-emploi actuellement, où il n'y a pas de boulot, nos jeunes filles sont très très confrontées à ce genre de choses, à des pervers. Moi j'appelle ces hommes des pervers, et il y en a partout. Mais nos filles sont... Mais une fois que... moi je dis à la jeune fille qui m'a vu, qui m'en a parlé, je dis bon, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois lui dire non, et n'insiste pas trop, si c'est lui qui doit te trouver le boulot, cherche ailleurs, il y a l'entrepreneuriat, il y a tout ça là, je pourrais essayer de faire quelque chose par toi-même, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire forcément qu'on va tous travailler dans l'administration, on va tous se tenir, il faut entreprendre quelque chose par toi-même, c'est mieux, et plus que pour les femmes aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable. Parce que le monde devient de plus en plus pervers. Hein, aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça. Nos filles aussi ne sont pas si sérieuses que ça. Excusez-moi le mot sérieux. Oui. Elles ne sont pas si pudiques que ça. Hein. Donc, elles laissent aussi des fois tenter les hommes, c'est pas ce que vous
parlez. Donc, ça veut dire qu'à des moments donnés, les filles même provoquent.
Elles provoquent, voilà, c'est hommes. Ce que je veux dire. Elles provoquent les hommes. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à la provocation, mais il y a des habillements par les femmes qui ne sont pas très décents à porter pour aller au service. Quand vous portez les choses tellement moulées là, bon, c'est vrai que c'est donné, peut-être dit que. On va me dire que on est en train d'empiéter sur la liberté de port. Et parce que d'autres vont vous dire qu'elles sont libres de penser ce qu'elles veulent. Mais vu notre culture, vu comment nous avons l'habitude, nos hommes ne sont pas habitués à nous voir comme ça. Complètement moulant, donc, mais comme c'est la mode, il faut que les hommes aussi s'habituent, s'adaptent à la nouvelle mode. Mais en attendant, il faut que nous mettons la mesure dans soi. Quand vous devez vous retrouver tous les jours dans un bureau avec un homme, non. Et que vous venez tous les jours complètement moulé, où on voit toutes les formes, c'est un peu difficile.
Ça va obliger le monsieur à tenter quelque chose.
Oh, bah, c'est bon, ça, on ne sait jamais.
Et là, on ne peut pas l'affiner.
Parce qu'il n'est pas habitué. En Europe, les gens sont habitués. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. En Europe, dans les pays très développés, ils sont habitués à voir même quelqu'un en soutif simple, à la plage, partout, être dans la ville, ça ne leur dit rien. Mais notre culture aussi, ici, on n'est pas habitué d'avoir. Donc, nos hommes, quand ils sont confrontés à ça, ça devient difficile pour eux. Ça devient difficile et ça laisse les possibilités, les tentations. Quoi.
Voilà. Merci à vous, Madame la Ministre, pour ce conseil à l'endroit de nos jeunes filles. Nous allons souffler rapidement en musique. C'est la partie surprise de notre émission qui nous amène à demander à Madame la ministre, en dehors de sa fonction, en dehors de tout ce qu'elle fait, qu'est-ce que vous faites encore?
Bon, c'est vrai que, comme j'ai dit, je suis un peu dans la vie associative aussi, que j'ai démarré un peu pendant que j'étais déjà à l'université à Reims. J'étais à la base de la création de l'association des Béninois de Champagne-Ardenne. Donc on se retrouvait autour de cette association, donc tous les Béninois qui étaient dans la région là-bas. Et ça m'a donné un peu le goût à la vie associative, ce que j'ai continué. Et j'avais oublié de vous dire aussi, quand j'étais rentrée aussi au Bénin, en plus du fait que j'étais professeure du collège, j'avais également intégré une ONG, FADES Favori, Femmes Action Développement Solidarité, où je militais également en beaucoup. On faisait des activités avec les femmes pour essayer de promouvoir et de faire émanciper la femme. L'ONG également était membre du réseau Rifonga, réseau d'intégration des femmes ONG et l'association. Et donc, à l'âge où j'ai participé, j'ai été élue secrétaire à l'information et de ce réseau à l'époque. Et donc, en 2016, j'ai évolué en créant aussi l'ONG Ewe Tutu.
Ewe Tutu, ça veut dire quoi?
Qui veut dire feuille verte ou le vert de la nature. Et oui, en Yoruba, ça veut dire la feuille, et tout quand elle est fraîche. La feuille fraîche, donc la feuille qui a la couleur verte. Quand on dit l'ONG, quand on dit le vert, en Yoruba, c'est la couleur et oui, tout. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette ONG qui est... Donc,
qu'est-ce qui vous a motivé à donner ce nom-là à l'ONG?
Mon amour pour la nature. Après ma maîtrise de biochimie, je vous ai dit, j'ai fait le DSS en management environnemental et qualité des eaux. Et je vous ai dit tantôt, quand j'étais à Agou, dans la montagne, la verdure, donc ça a commencé déjà là, à l'époque, et c'est pour ça que j'ai choisi ma voie pour faire la spécialité après ma maîtrise de biochimie en environnement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, après, créer cette ONG, qui est Ewe Tutu, dont la mission principale est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes, tout en promouvant le numérique, le genre et surtout la protection de l'environnement. Voilà, c'est surtout ça. Donc nous contribuons à la protection de l'environnement, nous assurons la qualité de l'eau et voir un peu au niveau de sa gestion aussi en milieu urbain et périurbain. Nous sommes également dans la promotion de l'utilisation de l'outil numérique, comme je le disais tantôt. Et en cela, nous développons également des programmes et activités éducationnelles sur les questions de la vie, telles que la sexualité et les problèmes socio-économiques affectant surtout les jeunes.
D'accord.
Et également, nous faisons la promotion de toute innovation, par exemple en faveur de l'art, de la culture et des sports. C'est pour ça, dès qu'il y a eu l'expo au niveau du palais de la présidence, nous n'avons pas hésité, tous les membres de l'ONG, à s'y rendre, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, pour aller visiter ces belles œuvres-là de nos ancêtres qui sont revenus. Et c'était un moment formidable, magnifique.
Pour les membres de l'ONG. D'accord. Merci, Madame la ministre. Votre vision à court, moyen et long terme pour votre ONG,
c'est de contribuer surtout à l'amélioration de l'autonomisation des femmes en général, et en particulier mais l'amélioration de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Mais pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peine 6 femmes députées sur les 83. Donc, 6 femmes seulement sur 83, c'est très minime. Donc, il y a un travail qui se faisait depuis. Vous avez dit Fadé Saboui, formation de développement, ça arrive depuis 2000 que j'y étais. Et donc, on continue avec Iwi Tutu dans cette organisation de la femme. Donc, en cela, dernièrement, nous avons fait une activité qui a sensibilisé les femmes sur l'article 144 portant du code électoral, la loi portant code électoral. L'article 144 qui parle des 4 femmes qui seront sûrement à l'Assemblée prochainement, après les élections législatives du 8 janvier prochain. C'est un grand pas pour nous, c'est une discrimination positive pour aider les femmes à être plus nombreuses. Mais en plus des 24, là, nous avons souhaité quand même sensibiliser les femmes pour que les listes qui vont présenter beaucoup de femmes à des bonnes positions soient ces listes qui soient votées par les femmes. Qu'il y ait une telle solidarité des femmes en faveur entre les femmes et en faveur des listes qui vont présenter les femmes en bonne position. Il ne s'agit pas de mettre des femmes pas trop suppléantes, quatrième suppléante, cinquième suppléante.
Ça ne va pas porter.
Et se dit que comme il y a déjà une femme qui est réservée, qui est sur la liste réservée, ça va déjà, 24 voix déjà. Notre souhait, c'est d'aller vraiment à près de 50% ou pourquoi pas des femmes à l'Assemblée. les autres pays ont ça. Au Mali, il y a beaucoup de femmes à l'Assemblée. Au Sénégal également,
On y arrivera.
Ça, c'est grâce aussi à la volonté politique du chef de l'État. Et je profite de l'occasion pour dire merci à ça. Parce que vraiment,
Madame,
c'est une lutte de longtemps.
Madame, votre vie politique actuelle se résume en quoi?
Ma vie politique, je milite.
Toujours.
Ah oui, ça, je milite toujours. Et toujours, je ne sais pas si j'ai le droit de dire mon parti politique. Je suis du Bloc Républicain. Je milite dans ma zone d'intervention comme l'OME en général, surtout la 19e. Les Agégué, Porto Nouveau, Sénécouti, Adjara, voilà.
Vos ambitions politiques,
vous savez, pour être en harmonie avec mes options, mes missions, ma mission au niveau de mon ONG, c'est de faire en sorte que nous soyons mieux représentés dans les instances de prise de décision. Donc, c'est la voie de soi. Je le veux aussi bien pour mes sœurs que pour moi-même. Voilà.
D'accord. Comment arrivez-vous à concilier la vie professionnelle et celle conjugale?
C'est pas facile, mais on y est arrivé. C'est dense, mais il suffit d'une bonne organisation. Et aussi, on n'a pas le choix, on est obligé de se faire aider. Comment ça se passe? Bon, vous avez forcément une aide ménagère qui vous aide, qui fait pratiquement peut-être là une bonne partie des choses avant que vous n'arriviez, mais c'est pas pour autant qu'il faut la laisser faire tout. Vous perdez un peu de voix. Surtout quand vous êtes du genre exigeant, que vous savez que pour manger, vous êtes très exigeant, donc vous êtes obligé d'aller à la cuisine, de préparer vous-même.
Et mais monsieur, vous arrivez. Comment il vous accompagne bon. Rapport à votre vie professionnelle, politique, associative, son apport.
Beaucoup, beaucoup. Monsieur m'accompagne beaucoup dans ma vie professionnelle parce que il n'a pas envie non plus de s'ennuyer avec sa femme parce qu'il a, il est d'un certain niveau aussi, donc il n'a pas envie d'avoir une femme qui, avec qui il ne peut pas discuter. Si vous ne pouvez pas discuter de ce que vous faites avec votre conjointe, il y a un souci. Donc, du coup, il m'accompagne et il m'aide à aller beaucoup de l'avant. Surtout qu'il a des familles un peu politiques aussi, avec sa maman, une grande politicienne aussi. Donc voilà, donc ça, c'est depuis petit, il a été conditionné à ça aussi, donc ça ne le gêne pas. Donc, et tout s'apprend, hein, tout s'apprend. C'est vrai que vous pouvez avoir les parents qui sont politiciens, mais vous pouvez dire, ma femme, non, elle est pour moi. Une certaine jalousie aussi. Dit, voilà, il ne faut pas qu'elle sorte, parce que si elle sort, ça y est, les gens vont la consulter, ils vont me prendre ma femme. Mais c'est une question de confiance en soi. Il faut avoir confiance et il me fait beaucoup confiance. Et ça, je le remercie beaucoup pour ça.
Je le remercie également. Et les enfants, comment ils prennent ça? Parce que je vois que vous êtes une femme très mobile.
Oui. Bon, les enfants, ça va. Depuis l'enfance, déjà, ma fille a été habituée à voir maman aller faire. Parce que moi, j'ai fait ma maîtrise tout en ayant déjà eu mon bébé. Donc, voilà. Donc, il est habitué que maman, elle va à la crèche ou surtout que maman va aller étudier. Donc, elle est habituée. Et j'ai continué. C'est après ça que j'ai fait mon DSS. Donc, elle est habituée. Et elle aussi, elle aspire certainement à être une femme très indépendante et voilà. Donc ça va.
J'arrive. Je vous remercie. Soufflons un peu en musique, puis avançons. Avant d'aborder la dernière ligne droite de notre émission, et sachez que nous sommes dans ce studio avec des antennes vacanciers et à qui nous allons accorder une minute pour qu'eux aussi puissent poser quelques questions à Madame la ministre. Donc, Madame la ministre, veuillez recevoir et veuillez répondre aux questions de nos antennes vacanciers. Je vais laisser Mademoiselle Denise Touré pour poser sa question.
Madame la ministre Oni Sophia Touni Fadi, existe-t-il des femmes dans votre ONG et Wetutu?
Bien sûr, c'est beaucoup, pas beaucoup de femmes. C'est une question très pertinente. J'ai plus d'hommes que de femmes dans mon ONG, surtout au niveau de l'administration. Parce que vous avez des femmes qui sont instruites, qui ont été à l'école, mais qui n'aspirent pas forcément à faire du bénévolat pour commencer à s'habituer à la vie de travail, de la vie administrative. En fait, il faut commencer par du bénévolat. On peut travailler, participer aux séminaires, aux ateliers et repartir forcément sans peut-être pas d'argent. Et beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à faire cela. Et c'est ça qui est dommage. Mais par contre, nous avons beaucoup, j'ai beaucoup de jeunes hommes avec moi.
Abdiaka Diagwa.
Oui, merci madame. Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Et j'ai une question à votre endroit. J'aimerais savoir le département dans lequel vous intervenez sur le campus.
Au niveau de la faculté des sciences, je donne des cours de gestion des déchets aux masters qui font la qualité des eaux et traitement et qualité des eaux.
Merci. Tu es donné.
Madame la ministre, merci beaucoup à vous pour votre développement. J'aimerais vous demander que pensez-vous, quels conseils vous avez à donner pour des couples dont le mari est un cadre ou la femme est aussi un cadre. Et d'un côté, il y a un cadre et une commerçante ou un commerçant.
Voilà. Merci beaucoup. Quand vous êtes, quand la femme est cadre, dans tous les cas, que le mari soit cadre ou commerçant, ce que moi je trouve qui frustre beaucoup, c'est quand la femme se dit je suis instruite et délègue un peu notre culture, parce que nous avons notre culture. Il y a certaines choses que la femme doit faire dans notre culture, qu'il ne faut pas oublier et qu'on est obligé de le faire. Il va être difficile de demander à un homme ici en Afrique et particulièrement au Bénin de commencer à rentrer dans la cuisine comme vous, parce que vous êtes rentrés tous les deux du travail. Ça va être, ça va pas passer. À moins que ça vienne spontanément du monsieur. Mais si ça ne vient pas du monsieur, il ne faut pas en faire un plat. Il faut se dire, voilà, ça c'est mon rôle. J'ai été construit comme ça. C'est comme ça on nous a éduqué qu'il faut que la femme soit à la cuisine. Et c'est peut-être au niveau de vos enfants que vous allez rattraper les choses. En disant à vos jeunes garçons, mais écoute, la vie aujourd'hui, c'est vous être deux. Que ce soit toi ou ton épouse, vous devez pouvoir vous partager les tâches dans la maison. C'est au niveau des enfants. Mais au niveau du mari, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à le faire, n'en faites pas un drame. Et c'est pas à cause de ça que vous allez divorcer en tant que femme. Moi, je sais pas, en tant que même ministre, hein, quand ça nous arrive de sortir en couple, quand on arrive à des lieux de réception, ça ne me dérange en rien de prendre le plat de ma femme, de mon mari, d'aller le servir avant de me servir moi-même. Ça ne me dérange en rien. Parce que culturellement, posé une religion, j'ai été...
je laisse... Alice.
Et Madame la ministre, moi j'aimerais vous demander de nous donner quelques conseils en tant que jeune fille qui aimerait être comme vous, quoi.
Merci beaucoup. Le conseil que je vais donner, c'est d'abord, il faut, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez étudiante ou que vous allez à l'école ou que vous soyez dans une activité professionnelle, faites bien votre travail. Faites-le bien avec beaucoup de rigueur. Ne négligez rien dans votre travail. Il faut être perfectionniste. Quel que soit ce que vous faites, il faut le faire bien. Et que ça plaît en tout ce que vous faites. Moi, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Et allez le plus loin possible dans votre niveau, dans votre domaine de compétences. Ne restez pas basique. Ne restez pas basique. Sortez du lot. Cherchez à toujours sortir du lot dans ce que vous faites en tant que femme.
Merci beaucoup à vous, Madame la Ministre. Merci à nos antennes vacanciers. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission et je m'en vais directement vous demander votre plat préféré.
Mon plat préféré, c'est du saut de légumes, matinement, et avec souvent accompagné de l'igname pilé. Et je fais ça souvent tous les dimanches, pratiquement. Donc, c'est déjà
là.
J'ai fait ma saut de légumes avant de sortir.
Donc, c'est déjà là.
Oui, c'est déjà là.
Pas de soucis. Et vos loisirs.
Loisirs, j'aime beaucoup faire le vélo. C'est en cela aussi, je remercie aujourd'hui, on a plus de voix. On a plus de voix parce que entre temps j'ai dû lécher parce que c'est difficile d'aller à vélo. Donc je le faisais beaucoup quand j'étais en France, et footing, vélo et la natation et puis la lecture aussi.
Et
la lecture aussi, malheureusement, on n'arrive pas. À peine vous commencez à faire pour deux pages, le téléphone qui sort ou quelqu'un a sonné à la porte. Et voilà, donc vous êtes souvent distrait, c'est difficile de se concentrer, de faire la lecture.
Mais et sinon, on a recommencer avec le vélo?
Non, pas encore. J'ai recommencé avec la marche d'abord.
Un peu la marche.
Voilà.
Dès que vous allez vouloir...
À force de manger sautement.
Dès que vous allez vouloir recommencer avec le vélo, faites-moi signe alors.
On va faire ça ensemble. Merci. J'ai déjà...
Voilà. Et de toutes les langues que nous parlons au Bénin, quelle est la langue que vous aimez, en dehors de votre propre langue?
Ma propre langue. Bon. Et la langue. Bon. J'adore le Yoruba quand même, parce que c'est ma langue.
Oui. Yoruba, c'est déjà une activité. En dehors du Yoruba, là.
En dehors du Yoruba, j'aime beaucoup le goût aussi.
Le goût. Dites-nous quelque chose en goût pour que les auditeurs
qui sont à l'écoute plus.
Oui, c'est écouter, Mais,
merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre mot de clôture.
Mon mot de. Je vais vous dire, surtout à l'endroit des femmes, je l'ai dit, je le répète, beaucoup de courage. S'il faut vous faire accompagner par un coach pour gagner en confiance en vous-même, n'hésitez pas en tant que femme, mais émergeons, parce que nous avons besoin de tout le monde pour faire développer notre pays. Nous avons besoin autant des hommes que des femmes. Et les femmes ont particulièrement une aptitude de sixième sens, elles pensent venir les choses. Et je vous assure, si elles sont au bon endroit, au bon moment dans ce pays, nous allons plus avancer. Voilà. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est à l'endroit, les différents partis politiques, de vraiment positionner les femmes, de les positionner au bon endroit, de leur faire confiance et de les encourager. D'encourager les femmes et les mettre à de bons positionnements pour qu'on puisse en avoir beaucoup dans les instances de nos prises de décision. Tout ce qui est fait sans vous est contre vous. Et tout ce qui est fait sans la femme est contre l'homme grand H.
Merci à vous, Madame la Ministre. Ainsi se referme ce nouveau numéro de l'émission Femmes Leaders qui a reçu pour vous l'être ministre Sophia Tounifali, épouse Baba Moussa. Après joie, elle nous a parlé de son cursus scolaire, sa vie professionnelle et celle politique. Elle nous a aussi fait part de ses difficultés rencontrées et comment elle les a surmontées. Elle a également prodigué de sages conseils aux femmes. Sophia Tou Onifade, épouse Baba Moussa. Je vous rappelle qu'elle a été ministre de l'énergie et de l'eau, ministre du commerce, ministre de la microfinance des femmes et de l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, chargée des cours à l'université d'Abomey-Calavi et présidente de l'ONG Ewe Tutu. Merci d'avoir répondu présente à notre appel. Les portes de la radio GDS FM 89.5 vous restent ouvertes à tout moment. Avant de clôturer définitivement cette émission, retenez cette pensée. Penser chaque jour à son prochain est un exercice difficile. Mais y parvenir est signe d'attention, d'amitié, de fraternité et d'amour. Penser chaque jour à son prochain est un exercice difficile, mais y parvenir est signe d'attention, d'amitié, de fraternité et d'amour. Au micro, c'était Roméose Adonsiba, épouse Zintou. Devant les 1000 boutons, Freddy Fayon, il s'appelle l'homme de tous les temps. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Femmes Leaders. Bye bye.
Femmes Leaders. Femmes Leaders, une émission d'éducation, d'information et de sensibilisation. Femmes Leaders, c'est l'émission qui fait la promotion de la femme engagée, inspirante et qui fait preuve d'un savoir-faire. Femmes Leaders, c'est tous les dimanches à 12h sur Radio GERDES FM 89.5 MHz. Femmes Leaders, toi femme, ça te concerne.
GERDES FM, une équipe jeune et dynamique à votre service de 6h à 0h.